Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Le carnet de région, c'est donc reparti pour cette semaine avec l'actualité de la semaine au cœur de votre région Languedoc-Roussillon avec les radios associatives qui vous proposent l'information plus proche de chez vous. Au sommaire, cette semaine, nous parlerons des 4e Jeux internationaux de la jeunesse qui se sont déroulés dans l'Aude. Nous retrouvons pour cela le sportif en herbe Éric Boyer. Puis il sera question des hôpitaux, les hôpitaux pour lutter contre les déserts médicaux, direction la Lozère. Un grand week-end nous attend, placé sous l'idée de l'autogestion. Reportage signé Rémi Goujon. Il sera question aussi des 4e journées Haroun Taziev qui se déroule cette année au Salagou. Et puis à la veille de la saison estivale, reportage concernant la prévention et également la sensibilisation à la noyade. Et pour cela, nous retrouverons Romain Bercher. C'est le carnet de région. Et pour débuter ce magazine, Port Camargue est le premier des ports à avoir reçu le pavillon bleu. En 2014, ils gardent une nouvelle fois leur label. Pavillon bleu, c'est le label touristique qui met en avant les démarches environnementales des ports de plaisance en France. Port Camargue est le premier port de plaisance en Europe qu'il reçoit chaque année depuis 1985, signe que les eaux et l'environnement est la priorité du port. Engagé aussi dans l'opération Port propre dans la région, ce port est une référence en France. Bernard Suzarini, chargé de communication des animations à Port Camargue, revient sur l'obtention de ce label.
C'est un label qui concerne uniquement le port, c'est pas les plages, pour la qualité des eaux qui sont à l'intérieur du port. Des efforts, on en fait depuis l'origine, depuis la création de Port Camargue, puisque déjà à cette époque-là, quand la concession par l'État pour construire Port Camargue a été accordée, il y avait 140 hectares sur le domaine public maritime, il y avait déjà une obligation dans le cahier des charges, c'était d'avoir une station d'épuration. Depuis, on a été toujours dans ce sens-là. Le port, lui, il est bien né parce qu'il est né d'un architecte qui a une volonté de faire un véritable gruyère de Port Camargue, c'est-à-dire de faire joindre les bassins avec des tuyaux. Donc, on peut dire que l'eau circule régulièrement. Et puis après, on a toujours continué. On a été port pilote de l'opération port propre en Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire la collecte des déchets avec le tri. Et puis après, on est passé à la norme ISO 14001. Et c'est une norme qui nous oblige régulièrement à progresser. Et depuis des années maintenant, depuis 2003 que nous avons la norme ISO 14001, chaque année, on est obligé d'améliorer. Depuis 85, le premier pavillon bleu des ports a été signé ici à Port Camargue avec une personnalité du département qui était Madame Huguette Bouchardeau, qui était donc élu à l'environnement et qui habitait le département du Gard, du côté d'Aigues-Vives, je crois.
Donc l'avoir chaque année, c'est quand même une reconnaissance au niveau déjà environnemental, mais aussi au niveau touristique.
C'est important au niveau effectivement technique pour la qualité des eaux. Au niveau touristique, ça l'est et ça va l'être de plus en plus, parce qu'il y a des nouvelles directives qui, à partir de 2015, demandent aux communes d'afficher la qualité des eaux dans tous les lieux publics. Le pavillon bleu tiendra compte de cette qualité des eaux, notamment pour les plages, parce qu'il n'y a pas que les ports. Il y a deux types de pavillons bleus en France. On peut dire que les villes qui n'auront pas des eaux de bonne qualité n'auront pas forcément le pavillon bleu.
Comment vont les eaux ici à Port Camargue ?
Régulièrement, on fait des prélèvements, on les affiche dans tous les blocs sanitaires, dans tous les lieux du port. On a un journal quotidien qui s'appelle Carnet de bord. On met dedans nos relevés qui sont faits par un laboratoire à Montpellier, Boussous-Bertrand, donc c'est transparent. On a 14 points de prélèvement à l'intérieur du port et nos eaux sont de parfaite qualité.
Ça coûte combien environ de faire tous ces changements pour avoir un label, pour être aux normes ?
C'est un label. C'est surtout les normes qui sont beaucoup plus contraignantes parce qu'il faut faire des choses qui sont précises et qui doivent être contrôlées à la sortie pour avoir la norme. C'est une certification, notamment ISO 14001. Alors, ça a un coût. Port Camargue investit régulièrement en termes d'environnement, pour le fonctionnement et pour l'amélioration de la qualité des eaux dans tous les domaines. C'est quelque chose qui nous préoccupe et qu'on a toujours fait. Donc, si on regarde cette année, c'est des gros budgets. C'est un budget de 5 millions d'euros, les dragages. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est aussi salutaire. Et chaque année, effectivement, rien que pour le fonctionnement, on investit et on investit aussi pour la construction et l'aménagement.
C'était un sujet de Naïma Serve de Delta FM. Alors que la Coupe du Monde démarre tout juste, une autre manifestation sportive internationale a eu lieu cette semaine dans le département de l'Aude. Ce sont les 4e Jeux internationaux de la jeunesse organisés par l'UNSS, l'Union française du sport scolaire, et rassemblant 320 jeunes du monde entier scolarisés dans les lycées français mais également à l'étranger. Ils ont participé pendant 4 jours à des épreuves sportives et un parcours culturel et artistique à Narbonne, Gruissant et également Carcassonne. Un extrait tout de suite de la cérémonie d'ouverture, c'était mardi soir au Palais des Congrès de Gruissant.
Les élèves des écoles primaires de Gruissant apporteront leur dessin d'accueil au pays. J'appelle pour commencer, ils se lèvent, ils nous montrent leur drapeau, c'est le lycée Prince Erling Copenhague d'Allemagne. Monsieur Patrick François, représentant le président du Conseil général de l'Aude, André Viola. À travers le département de l'Aude, c'est tout un univers de culture, de curiosité et de vestiges historiques que vous rencontrerez. Pendant 4 jours, la mer, les étangs, les vignobles, la faune et la flore méditerranéenne vont vous accompagner sous un beau soleil.
Madame Farnaud de Fromont, directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Un esprit de solidarité. L'esprit de compétition avec l'esprit sportif, l'amitié dont on a parlé tout à l'heure, un partage, le sens de l'effort, je crois que nous y retrouvons absolument tout ce que nous souhaitons promouvoir au quotidien. Quand je dis nous, je pense à vos enseignants et vos chefs d'établissement. Donc, merci beaucoup à tous. Vous représentez plus que votre établissement aujourd'hui. Vous représentez plus que le pays d'où vous venez. Vous représentez la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, des citoyens du monde autour des valeurs sportives. Merci et excellente semaine.
Charlotte, 16 ans, fait partie de la délégation de jeunes venant de Londres pour ces Jeux internationaux de la jeunesse qui ont lieu dans l'Aude cette semaine. Éric Boyer de RCF la joint par téléphone. Elle nous livre ses impressions.
On était super contents d'être là parce que ça nous permet de rencontrer plein de gens de partout dans le monde autour de nos passions communes qui est le sport. C'est génial. Chacun est content de représenter son pays. Dès que les pays étaient appelés, tout le monde se levait et tout le monde criait. Mais je pense que ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on est très content de représenter l'Angleterre, mais on est bien plus content de partager ce qu'on connaît de l'Angleterre et de la France aux autres. Enfin, on est bien plus content d'apprendre des autres pays que de montrer qu'on vient d'Angleterre, je pense.
Voilà, ben Charlotte, merci beaucoup. Pour terminer, ton avis sur l'Aude, c'est pas fini encore, mais ce que tu en as vu à Narbonne, à Gruissant, quel est ton avis sur le département?
C'est vraiment un département fantastique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des bâtiments historiques, on vient de visiter Narbonne, c'est vraiment super beau. On est vraiment ravis d'être là et de découvrir ce département qu'on ne connaissait pas très bien finalement.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Il y a tout juste une semaine, une bonne nouvelle est arrivée à l'hôpital de Mans dans la personne de Romain Altweg. Le docteur Romain Altweg est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier et dorénavant, il sera présent tous les premiers jeudis du mois pour administrer un traitement aux malades du MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Un traitement lourd qui va permettre à ces malades de rester sur Mans au lieu de parcourir les 400 km aller-retour pour se rendre à Montpellier. C'est Michel Liberator de l'association François Aupetit qui se bat depuis 3 ans pour obtenir un médecin spécialiste. Et sachant qu'il y a en Lozère, 160 personnes touchées par cette maladie et près de 400 malades qui sont atteints par ces maladies en lien avec les MICI. La venue de ce médecin est donc nécessaire. Écoutez Michel Liberator.
À mener à bout le projet parce que bon, là, on a posé la première pierre. Maintenant, il faut que les malades lozériens viennent et fréquentent le service qui est mis en place. C'est ce qui est primordial. D'autant plus qu'on a mis les grands moyens et qu'on a fait venir donc un spécialiste du CHU de Montpellier pour éviter ensuite le départ inopiné d'un médecin. Donc là, on aura quelqu'un qui sera à demeure dans un premier temps tous les premiers jeudis du mois. Donc les gens peuvent téléphoner directement au service des consultations. Et si tout marche bien, et c'est là l'enjeu de l'opération, si tout marche bien, on peut espérer qu'en 2016, on pourrait avoir un médecin en temps partagé entre l'hôpital de Mende et le CHU de Montpellier. Ben effectivement, donc les malades de Mickey, avec les chiffres de 2013 que j'ai reçus, ça fait un peu plus de 160 malades. Donc, mais ça, c'est Mickey spécifique, c'est-à-dire maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Mais un hépatogastro ne s'occupe pas que des Mickey, il s'occupe d'un ensemble d'autres pathologies. À commencer par les hépatites, par les problèmes de foie, de cancer du foie, d'hématomacrose, c'est-à-dire de trop de fer dans le sang, etc. Donc, il y a d'énormes potentiels maintenant sur l'hôpital de Mende en matière de soins digestif.
Et d'après Louis Coteau, directeur de l'hôpital de Mende, développer une activité en collaboration avec les CHU reste une politique d'avenir indispensable pour les hôpitaux ruraux.
Bien entendu, développer une activité en collaboration avec les CHU reste une politique d'avenir indispensable pour le centre hospitalier de Mende. Le docteur Alweg est un gastro-entéro spécialisé. Nous avons déjà le docteur André ici sur le territoire. Il est vraiment dans la mission typique des missions de CHU, c'est-à-dire c'est des spécialités que nous n'avons pas et qui peuvent nous être prêtées par le centre, les CHU. C'est mon espoir parce que ces consultations avancées des CHU sont indispensables désormais. Et elles sont indispensables d'une part parce qu'ils font venir des spécialistes, mais aussi parce que la politique des réseaux que l'on peut construire avec les centres hospitaliers universitaires est la seule possible pour nous. On ne fera jamais venir de spécialistes à temps plein à Mende. Personne ne viendra. La Lozère est affectée par, comme les autres territoires, par des pathologies qui effectivement nécessitent des interventions de spécialistes. La démarche de M. Liberator et le soutien que j'ai eu de mes collègues, de M. Domi, le directeur général du CHU, mais aussi du professeur Jonquet, le président de la CME, est vraiment bénéfique.
C'était un sujet de Ludovic Terol de 48FM. Un grand week-end placé sous l'idée de l'autogestion, c'est à Saint-Jean-du-Gard que cela se passe et c'est ce week-end. Mention triple A pour ce rassemblement à Saint-Jean-du-Gard, mais pour les organisateurs, la signification n'est pas la même que les agences de notation. Ici, il s'agit bien de parler d'autonomie, d'alternative et d'autogestion. Dans la ligne du grand rassemblement pour les énergies alternatives du côté de Lézan, il y a tout juste 2 ans, un collectif de citoyens, d'associations et autres ONG organise tout au long de ce week-end à Saint-Jean-du-Gard. Les organisateurs comptent bien réfléchir le public sur différents aspects qui touchent leur vie quotidienne. Pour cela, différents moyens comme des ateliers, des tables rondes, des débats ou encore des projections de films documentaires. Christian Sunt, un des coordinateurs de l'organisation de cette foire à l'autogestion, comme ils l'ont appelé, nous explique la difficulté de définir l'autogestion.
C'est pour ça qu'on a mis les trois A, parce qu'on ne voulait pas rester dans une vision historique seulement de l'autogestion, à savoir l'organisation de la production, puisque les expériences autogestionnaires qui sont les plus connues sont connotées comme l'autogestion des moyens de production. On pense qu'il faut aller au-delà de cette réflexion et penser à une autonomisation de tout l'ensemble des besoins essentiels, donc ce qu'on peut appeler l'autogestion généralisée de la vie. Et qui fait que, dans ce cas-là, on a une recherche sur tout ce qui est l'autonomie, les autonomies individuelles et collectives. Et ça passe par des alternatives à la société d'aujourd'hui. Donc tout ce qui est alternative à la société marchande et qui va vers plus d'autonomie individuelle et collective participe à cette grande démarche pour une société où on s'autogère la satisfaction de nos besoins.
Jocelyn fait partie de l'organisation de cette foire. Pour lui, l'autogestion a de beaux jours devant elle.
Non, moi je pense que c'est en train de se développer pas mal quand même dans le monde entier. Il y a sûrement un peu une désillusion par rapport au mode de militantisme traditionnel, d'attendre le grand soir, la révolution, peut-être depuis la chute du soviétisme aussi, et qu'il y a de plus en plus de gens dépassés par la crise, qui sont dans le besoin ou aussi dans le ras-le-bol de justement attendre le grand jour, qui reprennent les choses en main avec une multiplication d'ateliers autogérés, de lieux de vie, etc. Donc ça a un titre assez individuel, mais aussi à titre collectif. Je pense qu'il y a de plus en plus d'organisations, de groupes politiques qui réfléchissent à ces thèmes d'autogestion, qui le revendiquent, que ce soit plus traditionnellement des anarchistes, des libertaires, mais aussi maintenant que ce soit le NPA, que ce soit les alternatives qui font partie du front de gauche. Donc voilà, ça se multiplie, ça se développe pas mal. Et l'idée de la foire, c'est de faire se rencontrer tous ces gens-là qui n'ont pas tous la même définition de l'autogestion. Pour certains, c'est très individuel. Pour d'autres, c'est beaucoup plus politique, collectif. Et l'intérêt, c'est justement qu'on puisse se retrouver ensemble, partager sur ces définitions-là, voir ce qui nous rassemble, ensemble, ce qui peut aussi faire des différences et essayer de voir comment on avance ensemble par la suite.
Interview réalisée par Rémi Goujon pour Radio Escapade. Les quatrièmes journées Haroun Taziev se déroulent cette année au Salagou autour de toute une série de rendez-vous proposés ce week-end dans le petit village Héroleté, Docton et sa bibliothèque qui accueille en accès libre plusieurs expositions notamment. Bernard Halleux est à l'origine de la manifestation, on l'écoute au micro de Cédric Rémy de Radio Lodève.
Donc nous sommes 5, tous bénévoles et tous compétents ou amoureux donc des paysages et du volcanisme en général. Et tous les ans on change d'endroit et on change de volcan. Donc, c'est 5 copains, dont le fils Taziev, qui avait besoin qu'on reparle de son père et qu'on reparle du centre Haroun Taziev qu'il est en train de créer donc en Ardèche, à Chauderolles. Et c'est aussi donc des copains retraités qui sont profs de fac sur les volcans. Un autre copain qui habite Saint-Jean-de-Fosse, donc qui est autodidacte sur les volcans aussi. Et moi-même, donc ancien prof de sciences nat, qui a beaucoup enseigné le volcanisme, et surtout au Salagou, qui est un volcanisme particulier, mais il faut connaître hein, pour y montrer, mais c'est tellement intégré dans des paysages superbes que ça passe bien en gros au niveau des touristes et des scolaires. Globalement, il y a les centres aérés qui viennent voir nos 3 expositions, hein, une très très pointue, très jolie, qui viennent du père Taziev, des photos inédites, des roches inédites. De mon côté, moi j'anime, j'apporte des microscopes, j'apporte des maquettes d'expérience, et puis le copain donc de Saint-Jean-de-Fosse, lui, il monte des photos, il explique le volcanisme local. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours, du matin au soir, et c'est gratuit.
Au programme, aussi ce week-end, des conférences et 2 sorties ouvertes à tous.
Les sorties sont très locales, car Carlincas, c'est la seule coulée de lave dans votre région, qui va de Carlincas jusqu'à Salasque, qui permet donc des paysages plats, hein, le cause de Carlincas. Là, on va s'y promener, et après on descend donc dans la Dolomie et dans les bauxites, où il y a des fissures volcaniques, ça c'est la sortie du dimanche. Le samedi 14, c'est plus sur Brenas où il y a une multitude de petites cheminées volcaniques qui transpercent la ruf. Souvent, des gens viennent avec nous parce qu'ils connaissent le coin. Donc, c'est à la compréhension de tout le monde.
Voilà, donc je vois qu'il y aura la projection de films également.
Voilà. Donc ça, c'est nouveau parce que le samedi 14 juin, nous fêtons le centenaire de la naissance d'Haroun Taziev, qui est né le 11 mai. On invite un volcanologue actuel, qui est prof d'université, M. Bardanzev, et qui nous fait une très belle conférence à Salasque à 17h qui s'appelle « Les grandes éruptions volcaniques dans le monde ». Et le soir, s'il fait beau, donc de 8h à minuit, le fils Taziev fait une conférence à propos de la vie de son père, puisqu'il vient de faire un livre qui est sorti il y a 2 mois. Et en plus, il y aura une centaine d'enfants, on espère, qui chacun aura un flambeau et on va faire un petit défilé dans la nuit vers 11h du soir. Et pendant ce temps-là, donc d'autres adultes, des géologues du coin, retraités, il y en a beaucoup, vont raconter pourquoi ils sont géologues et la plupart, c'est grâce à Haroun Taziev.
Pour tout renseignement sur ces journées Haroun Taziev, on peut contacter et appeler l'Office du tourisme du Clermontais au 04 67 96 23 86. Je répète, 04 67 96 23 86.
Carnet de région.
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Dernier sujet au cœur de l'actualité de cette semaine, la prévention noyade. À l'approche de la saison estivale, Montpellier Agglomération organise depuis le 16 mai dernier une grande opération de prévention avec le concours des piscines de l'agglomération. La noyade, doit-on le rappeler, est la deuxième cause de mortalité pour les enfants de moins de 6 ans dans le département héroletais. Romain Bercher de RCF Maglonero nous en dit plus.
Les 13 piscines de l'agglomération de Montpellier se mobilisent. Une grande opération de sensibilisation est organisée. Laurence Doladi est responsable de la piscine Jean Vivès.
Nous allons proposer différents ateliers d'initiation à la profondeur, des passages de tests anti-panique, des initiations aux gestes qui sauvent. Au niveau des scolaires, un partenariat avec l'éducation nationale où nous avons monté un grand jeu autour de sauvetage et du secourisme et de prévention. En gros, et puis un quiz à destination des familles pour créer le dialogue avec eux, essayer de faire réagir un peu les mentalités, les façons de réagir quand on va à la plage se baigner avec ses enfants ou à la piscine, etc.
Ces journées sont destinées uniquement aux enfants ou ça peut être également à destination de toute la famille?
Alors non, c'est à destination de toutes les tranches d'âge, des jeunes 17-25 ans qui font la fête quand on fête la fin de l'année, les examens. Donc notre collègue du SAMU vous le dit dira mieux que moi, chaque année, ils ont des jeunes qui picolent, qui font la fête autour d'une piscine, de la mer, etc. Et ils ont chaque année des noyades, ce qui est à déplorer. Ensuite, bon, évidemment, les jeunes de moins de 6 ans. Et ensuite, c'est tous les gens comme vous et moi, la quarantaine, cinquantaine, 60 ans, l'âge d'or, les gens un peu plus âgés, qui surestiment leur capacité physique et qui vont se baigner. Et on a jusqu'à la bouée de 300 mètres, on y va, mais on ne revient pas.
Laurence Doladi, la responsable de la piscine Jean Vivès, au micro de Cédric Combet. La collectivité donc de Montpellier Agglomération enregistre plus d'un million d'entrées dans ses piscines chaque année. Elle accueille également 20 000 enfants dans le cadre scolaire. Jean-Luc Messonnier est le maire de Bayargues. Il est également vice-président de l'agglomération de Montpellier en charge des sports. Pour lui, il est important de sensibiliser les habitués des piscines.
C'est quelque chose de très important car chaque année, 20 000 enfants de l'agglomération apprennent dans une période scolaire à nager. Et ça, c'est très important de montrer qu'on a une démarche de prévention et que ce qui était fait à l'époque à une échelle familiale avec, je dirais, des moyens qui étaient un peu rudimentaires puisqu'on apprenait à nager à la rivière, on apprenait à nager à la mer avec tous les risques que cela comprenait. Là, il y a un encadrement qui est optimum puisque tous les maîtres nageurs de Montpellier Agglomération, tous les personnels de Montpellier Agglomération sont à la disposition pendant ces périodes-là pour apprendre avec les scolaires, notamment maternelles et primaires, à apprendre à nager.
En cas de problème, pas de panique. Michel Maillet, responsable du SMUR de Montpellier, vous explique que les premiers gestes à faire en cas de noyade.
Bien entendu, la priorité, c'est l'excès à la façon de l'eau, dans la mesure où on est en capacité de le faire. On ne peut pas se jeter à l'eau si on ne sait pas nager. Le premier geste, c'est d'extraire un milieu dans lequel on ne peut pas respirer, c'est-à-dire de l'eau. Se mettre sur le bord de la plage, que ce soit à la piscine ou en mer ou en rivière, et à ce moment-là, évaluer l'état de la personne. Soit la personne est consciente, respire normalement, on va la rassurer, en attendant d'appeler les secours, dont je vous rappelle le numéro, hein, le 15 le SAMU, le 18 les pompiers ou le 112. Si la personne respire mais ne parle pas, n'est pas consciente, on la met en position latérale de sécurité, en attendant que les secours arrivent, tout en surveillant cette personne le temps que les secours arrivent, bien entendu. Et si la personne malheureusement ne respire pas, on débute les manœuvres de réanimation qui sont le massage cardiaque en priorité et si on a été formé, le bouche à bouche de façon concomitante.
Des gestes d'autant plus importants que le risque de noyade est élevé. La noyade, c'est la deuxième cause de mortalité pour les enfants de moins de 6 ans dans l'Hérault. Jean-Luc Messonnier.
Notre bande littorale et la multiplicité des piscines privées, personnelles, nous place, vous savez, dans les cas de mortalité des moins de 8 ans. C'est le deuxième cas de mortalité pour les gamins. Donc bien sûr c'est à prendre en compte et vraiment c'est une évidence qu'il faut renforcer ce système de prévention des risques de noyade et continuer à aller dans ce sens.
C'était Jean-Luc Messonnier, adjoint au sport à l'agglomération de Montpellier et également maire de Bayargues. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève l'actualité riche, encore une fois cette semaine, pour le carnet de région. RCF Maglonero est le rédacteur en chef de ce carnet de région tout au long de ce mois de juin. Et pour finir cette saison, merci également à toutes les radios qui ont participé à l'élaboration de ce magazine. Prochain retour de l'actualité en région, c'est la semaine prochaine, même endroit, même heure. C'était le carnet de région.
Carnet de région. L'actualité en langue de Roussillon.